6h30 à Abidjan et en temps universel, 2h de plus ici à Paris.
RFI Matin.
Un nouveau journal Afrique avec vous, Simon Bourtembour, et à la une, 2 ans de prison ferme pour un syndicaliste à l'origine du mouvement de grève des enseignants en Côte d'Ivoire.
La première condamnation après les menaces du gouvernement. Pour l'exécutif ivoirien, le mouvement social est illégal. La deuxième salve de droits de douane américains est entrée en vigueur ce matin. Quelles conséquences pour les pays du continent? Là aussi, nous serons en Côte d'Ivoire. Nous reviendrons dans cette édition sur la dernière étape de l'escalade entre Bamako et Alger après la destruction d'un drone malien par l'armée algérienne. Les deux pays se sont mutuellement fermés leur espace aérien. Du football à la une également dans cette édition avec une double ration de Ligue des Champions. En Europe et en Afrique, on fait le point sur les résultats d'hier soir. Et puis notre dossier du jour est consacré à un spectacle itinérant pour sensibiliser aux migrations forcées des animaux face au changement climatique. Le début de la tournée, c'est sur le continent africain. Ça n'a rien du hasard, nous dira le metteur en scène.
Après les menaces du gouvernement, la condamnation donc d'un syndicaliste en Côte d'Ivoire.
Ghislain Dugarry Assi, condamné à 2 ans de prison par le tribunal des flagrants délits d'Abidjan. Arrêté en début de semaine, le leader syndicaliste enseignant se voit reprocher notamment d'avoir entravé le fonctionnement du service public. Une condamnation donc pour avoir harangué les enseignants du secteur public à faire grève ces 2 derniers jours pour obtenir l'augmentation de leur prime trimestrielle. Compte rendu de l'audience avec Binta Diagne.
L'exercice du droit de grève a-t-il été fait dans le cadre de la loi? Pendant 3 heures, cette question a été au cœur des débats qui ont tenu en haleine une salle pleine d'enseignants. Nulle part dans les textes, nous n'avons vu qu'il est indiqué d'autoriser un syndicaliste de se rendre dans un endroit et de suspendre le service public, affirme le tribunal. La justice reproche à Ghislain Assi d'avoir divulgué des messages de sensibilisation à la grève un jour ouvrable dans des établissements scolaires. La défense déplore ce délibéré. Les avocats contestent d'abord la forme. Leur client, disent-ils, a été arrêté à son domicile vers 2h du matin le 2 avril dernier, sans convocation. Par ailleurs, les conseils de Ghislain Assi estiment qu'on cherche à briser le droit de grève. Maître Léon-Paul Botteau.
Il n'y a pas de vide juridique. Le droit syndical est fondé en Côte d'Ivoire dans la Constitution. Et son exercice ne se fait pas en dehors des heures de travail. Ça se fait pendant les horaires de travail. C'est connu. Mais quels sont les faits reprochés à M. Assi? Simplement d'avoir véhiculé le message comme quoi il y aura une grève. Mais il l'a fait en tant que chargé de communication du MEDD. Donc il était dans sa mission.
La défense compte faire appel de cette décision. Binta Diagne, Abidjan. RFI.
Et plusieurs responsables syndicaux du secteur de l'enseignement ont par ailleurs été arrêtés quelques heures hier. Le gouvernement ivoirien estime que ce mouvement social est illégal car une trêve sociale prévaut jusqu'en 2027 et des discussions sont en cours avec les partenaires sociaux depuis octobre dernier.
On y revient largement depuis ce matin sur RFI. La deuxième salve de droits de douane promise par Donald Trump est entrée en vigueur.
Et l'Afrique n'échappe pas à ces nouvelles taxes. Le Lesotho a par exemple écopé de 50% de droits de douane supplémentaires. C'est tout simplement le taux le plus élevé pour le continent. Il sera donc certainement plus difficile pour les pays africains d'emprunter sur les marchés obligataires. Ces marchés où ces États empruntent de l'argent en émettant des obligations, de la dette que les investisseurs peuvent acheter. Après les hausses des taux post-pandémie de Covid qui les avaient éloignés de ces marchés, certains pays comme la Côte d'Ivoire avaient fait leur retour. Ils pourraient à nouveau en être exclus. Alexis Bédu.
Le risque principal, c'est que les investisseurs anticipent l'appauvrissement de ces pays et doutent un peu plus de leur capacité à rembourser. Prenons par exemple la Côte d'Ivoire qui a fait un retour réussi sur les marchés obligataires l'année dernière. Nouvelle taxe douanière de 21% pour exporter aux États-Unis, donc plus de difficultés à vendre le cacao outre-Atlantique, baisse des recettes fiscales et moins de dollars en réserve de change. Les exportateurs de fèves de cacao écouleront leur stock vers d'autres destinations et feront entrer d'autres devises moins recherchées par les investisseurs que le dollar, d'où ces nouvelles difficultés à pénétrer ces marchés obligataires. L'effet en chaîne sera le même pour de nombreux pays du continent, explique Ange Ponou, économiste pour Sika Finance à Abidjan.
Ce sont des pays qui vendent essentiellement des matières premières. On se dit que votre capacité à tirer des dollars dans vos réserves de change peut, n'est-ce pas, avoir un impact sur votre capacité à rembourser les emprunts internationaux.
Et semaine difficile pour les producteurs de pétrole, le prix du baril chute. Le Fonds monétaire international estime par exemple que l'Angola risque une baisse de recettes de 152 millions de dollars. Pour chaque dollar de baisse du prix du pétrole, les obligations nigérianes ont également chuté ce lundi.
Alexis Bédu du service économie de RFI. Des nouvelles de l'état de santé de Boiré Fili Sissoko. L'ex-ministre malienne de l'économie a été hospitalisée en urgence hier matin dans un établissement de Bamako. En prison depuis 3 ans et demi, Boiré Fili Sissoko, âgé de 70 ans, a vu son état de santé subitement s'aggraver, indique son avocate. Accusé notamment de corruption dans le cadre de l'affaire de l'avion présidentiel et des contrats militaires surfacturés, l'ancienne ministre n'a toujours pas été jugée alors que le délai légal de détention provisoire est dépassé. La semaine dernière, la Cour suprême du Mali avait rejeté la demande de libération sous contrôle judiciaire de Boiré Fili Sissoko en dépit de l'expertise médicale faisant état notamment de problèmes cardiaques.
RFI 7h36 à Bamako où avait lieu hier un rassemblement devant l'ambassade d'Algérie.
Une centaine de personnes réunies pour protester contre les agissements de l'Algérie envers le Mali. C'est la destruction la semaine dernière d'un drone malien par l'armée algérienne à la frontière entre les deux pays qui a mis le feu aux poudres. En début de semaine, les deux pays se sont donc mutuellement fermés leur espace aérien. Concrètement, tous les avions en provenance ou à destination du Mali n'ont plus le droit de voler dans le ciel algérien et réciproquement. Une disposition qui concerne donc les vols militaires, mais aussi et surtout les vols civils commerciaux affrétés par des compagnies nationales et internationales. Alors, quelles complications cela pose pour ces compagnies ? Mamadou Laminso est directeur à Dakar d'Aviatech, une société de conseil dans le secteur aérien.
L'Algérie a beaucoup de vols vers l'Afrique subsaharienne. Eh bien, l'Algérie va devoir rerouter tous ses vols, ce qui a un impact économique, bien sûr, et opérationnel, aussi bien sur les temps de vol, sur les consommations de carburant, sur la nouvelle planification, et donc des coûts supplémentaires. Déjà, tous les vols de la compagnie nationale algérienne, il y en a beaucoup qui opèrent en Afrique subsaharienne, mais aussi tous les vols internationaux qui étaient en escale dans le territoire algérien et qui doivent continuer leur vol en Afrique. Ils ne doivent pas survoler l'espace aérien malien. Les vols qui viennent du nord vont pouvoir contourner par le Maroc et par la Mauritanie ou alors par l'espace tunisien et libyen.
Mamadou Laminso au micro RFI de David Baché.
Au Sénégal, le FMI impose ses conditions pour un nouveau programme financier.
Une nouvelle délégation du Fonds monétaire international s'est donc rendue à Dakar lundi et mardi. L'occasion de poursuivre les discussions avec les autorités sénégalaises au sujet de la dette cachée de 7 milliards de francs CFA révélée par la Cour des comptes. Le FMI a prévenu que le voile devait être complètement levé sur le sujet avant l'ouverture éventuelle d'un nouveau programme financier. Les précisions depuis Dakar avec Juliette Dubois.
Abebe Ahemro Selassie, le directeur Afrique du FMI, a rencontré le président Bassirou Diomaye Faye, le ministre de l'économie et le ministre des finances au cours de cette visite de 2 jours dans la capitale sénégalaise. Le représentant parle de discussions constructives et des mesures envisagées ensemble pour surmonter, je cite, les défis économiques rencontrés par le pays. La page Facebook du ministère de l'économie évoque la possibilité d'un nouveau programme économique après la suspension du précédent programme de prêt suite aux révélations d'irrégularités dans les comptes publics. Mais du côté du FMI, on n'en est pas encore là. On affirme que cette visite intervient dans la continuité de la précédente et que le travail continue d'abord pour faire la lumière sur les 7 milliards de dollars de dettes cachées. Des discussions qui continueront à Washington où les autorités sénégalaises se rendront au FMI et à la Banque mondiale pour des réunions techniques. La présidence sénégalaise de son côté affirme être engagée dans des mesures de transparence, de lutte contre la corruption et d'assainissement des finances publiques, avec ou sans le FMI, je cite. Le Premier ministre Ousmane Sonko devrait annoncer les premières mesures dans ce sens jeudi à l'Assemblée nationale où il est attendu pour des questions d'actualité. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Du football, Simon, et une double ration de Ligue des Champions hier.
D'abord en Europe, avec le début des quarts de finale, l'Inter Milan s'est imposé contre le Bayern de Buzyn, alors qu'à Londres, Arsenal a corrigé le Real Madrid 3-0. Sur le continent africain, cette fois, 3 équipes sont déjà qualifiées pour le dernier carré de la Ligue des Champions, à commencer par le club égyptien de Pyramids, qui connaîtra pour la première fois une demi-finale dans cette compétition continentale. Victoire 4-3 en score cumulé face à Rabat, une qualification qui porte le sceau du Congolais Fiston Mayele. Sophie Lamazion.
Le club du Caire a souffert dans les derniers instants mais valide sa toute première qualification pour une demi-finale de Ligue des Champions. Tout s'est joué à l'aller pour les Égyptiens, victoire 4-1 avec le doublé de l'artificier Fiston Mayele. L'international congolais, déjà auteur de 6 réalisations dans la compétition, s'est même illustré du côté de Meknès, mais son but a finalement été refusé pour un hors-jeu. Les Marocains sont passés proches de la prolongation, une victoire 2-0, insuffisante pour poursuivre l'aventure. Un deuxième club égyptien est également au rendez-vous, moins surprenant, à Al-Ahly, tenant du titre et détenteur du record de Ligue des Champions remportée avec 12 trophées. Les Kairotes ont mis fin aux espoirs d'Alilal Omdourman, équipe soudanaise, entraînée par le Congolais Florent Ibengue. 1-0 à l'aller, 1-0 au retour au Soudan, 16e qualification en demi-finale dans l'histoire du mastodonte égyptien. Al-Ahly affrontera les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns. Les Brésiliens, lauréats en 2016, ont assuré le nul à Tunis face à l'Espérance après leur court succès 1-0 à l'aller du côté de Pretoria.
Et le dernier quart de finale de LDC africaine à suivre ce mercredi dès 16h temps universel. Les Orlando Pirates reçoivent le Mouloudia Club d'Alger.
Et puis le dossier de ce matin, Simon, qui nous emmène à Dakar et à Kinshasa.
La capitale congolaise d'abord, où se produit aujourd'hui le spectacle The Herds, le troupeau en français. Une pièce pour sensibiliser aux migrations forcées d'animaux face au changement climatique. Dans chaque ville, de nouveaux troupeaux de marionnettes sont créés avec des artistes locaux. Cette pièce itinérante donc posera ses valises à travers 11 pays avec un arrêt prévu dans la capitale sénégalaise du 25 au 27 avril. C'est là que Léa-Lisa Westerhoff s'est rendue dans les ateliers de fabrication.
Personne ne dit « Ah, nous devons sauver le bassin du Congo », mais c'est en réalité l'un des plus importants habitats naturels que nous possédons encore. C'est presque aussi grand que la forêt amazonienne. Le bassin du Congo, c'est le deuxième poumon de la planète. C'est l'une des plus grandes biodiversités au monde. Mais ce n'est pas au centre de notre attention, et bien sûr, il y a des intérêts financiers qui expliquent cela. C'est pour cela que nous voulions commencer ce spectacle ici, car le bassin du Congo raconte aussi le problème de l'injustice climatique avec un sud global qui paie le prix des péchés du nord. Nous sommes à Kinshasa et il y a des inondations géantes. C'est le changement climatique. Je pense que si on veut parler du changement climatique, il faut que ce récit commence en Afrique.
Et vous entendiez là, en réalité, le réalisateur de cette pièce, Amir Nizar Zouab. Revenons maintenant sur l'origine de la pièce et son principe avec notre correspondante Léa-Lisa Westerhoff.
Une tête de gnou est découpée dans une plaque de contreplaqué. Juste à côté, Fatoumata, étudiante en sociologie et comédienne, coupe de grands lambeaux de tissu.
C'est vraiment fascinant, au finish, de voir le résultat.
Le résultat, c'est une dizaine de squelettes, en bois articulé, des zèbres, des gnous, des singes, une girafe et un éléphant, grandeur nature et fait de récup. Sarah Desbois, chargée de la production au Sénégal.
On utilise par exemple des chambres à air qu'on trouve dans la rue pour faire l'articulation du cou et des jambes. Et ces marionnettes, en fait, vont être animées par des jeunes comédiens, artistes, danseurs.
90 artistes sénégalais seront mobilisés pour ce spectacle qui mélange danse et théâtre. Conçu par une compagnie sud-africaine, Okwanga, ces marionnettes se veulent les porte-parole d'une crise climatique toujours plus destructrice. Hansi Visage est l'un des concepteurs des animaux.
Nous voulons vraiment créer de l'empathie avec les animaux et leurs souffrances, faire ressentir les dommages que nous infligeons en tant qu'humains à la planète. C'est une merveilleuse façon de sensibiliser grâce à la magie du théâtre de marionnettes. Ce sont des conversations visuelles, c'est du mouvement, des émotions qui dépassent la barrière de la langue et des frontières.
Après Kinshasa et Lagos, le troupeau de zèbres et de gnous envahira différents quartiers de Dakar avant de poursuivre sa route vers le nord. Léa-Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
Le dossier de cette édition que vous pouvez retrouver à l'endroit et à l'envers sur notre site internet et notre application. C'est ainsi que se termine donc ce journal et je vous passe la main pour la suite d'RFI Matin.
Merci beaucoup Simon Bourtembourg. On vous retrouvera dans une heure pour un nouveau journal africain. Restez avec nous dans un instant, c'est la revue de presse sur RFI.